Rares sont ceux que le théâtre a tués. Molière, mort sur scène, demeure l'exemple le plus célèbre et peut-être d'ailleurs unique. Par contre, nombreux sont ceux qui ne vivent que pour le théâtre. Enjouant du Molière d'ailleurs, c'est étonnant. Ils ont la passion des planches, chevillée au corps. Souvent, ils l'ont eu très tôt, comme mon invité. On peut l'avoir à Paris, là où sont concentrées les grandes écoles. Mon invité, lui, l'a eu plutôt dans un recoin de France, la Bourgogne. Et voilà qu'aujourd'hui, il dirige les Tréteaux de France. Et voilà qu'aujourd'hui, il joue Molière, chaque soir ou presque, l'école des femmes. Bonjour Robert Renucci.
Bonjour.
Directeur des Tréteaux de France, présentez-nous cette compagnie qui est vraiment hors du commun.
Les Tréteaux de France sont un centre dramatique national. Parmi les 39 centres dramatiques nationaux, un n'a pas de toit et c'est tout son avantage. Loin d'être un handicap, c'est un atout. Il a la chance d'aller à la rencontre du public partout sur le territoire national, y compris ultramarin. Donc nous rencontrons le public avec les spectacles que nous apportons, mais aussi nous échangeons et nous faisons sur place un travail avec le public, car c'est le projet des Tréteaux d'aujourd'hui.
Et vos acteurs viennent essentiellement du TNP, Théâtre National Populaire de Villeurbanne.
Voilà, le Théâtre National Populaire est à Villeurbanne, dirigé par Christian Scaretti. Et dans un premier temps, j'ai voulu un partenariat avec Christian Scaretti, grand metteur en scène, et aussi dans une tradition qui fait qu'ils sont reliés, ces deux centres dramatiques nationaux, par l'histoire de Firmin Gémier, qui a nommé TNP ce qu'il est aujourd'hui, et également la roulotte de Gémier qui allait sur les routes à la rencontre du public.
Mais c'est Jean Danet qui a créé les Tréteaux en 59, c'est ça, hein?
Donc 59,
50 ans d'existence, enfin un peu plus.
Repris par Marcel Maréchal ensuite, et je suis le troisième directeur.
Alors, mais il y a une petite polémique autour de ça, parce que c'est Francis Huster qui devait être directeur, qui a été nommé, qui au bout de 3 mois a créé la Troupe de France. Il y a une concurrence entre vous ? Ça existe vraiment ?
Sans doute pas la concurrence, parce que comme nous le dirons peut-être ensuite, je suis loin de cet esprit. Mais au fond, d'une manière générale, mais au fond à la suite du départ de Marcel Maréchal, dans sa préparation, le ministère de la Culture, avec le président de la République, j'imagine, avait opté pour la présence de Francis Huster, qui s'est désisté, tout simplement. Ouais. Cela a fait un appel à candidature. Il y a eu 49 candidats.
Oui, mais il s'est désisté pour faire une Troupe de France, alors que c'est quand même paradoxal, non ?
Oui, sans doute.
Il y a de la place pour tout le monde, vous allez me dire.
Ah oui, bien entendu. Mais par ailleurs, donc, cela a ouvert une candidature réelle à 49 candidats qui ont déposé un vrai dossier.
Et le vôtre a été choisi. Avec quelle ambition, d'ailleurs ? Quel est l'état d'esprit que vous avez proposé à ce moment-là ?
Alors, pour moi, il s'agit de rendre à nos concitoyens la possibilité de prendre un acte réellement puissant dans l'écriture théâtrale d'aujourd'hui, c'est-à-dire partir de l'histoire des gens, de ce qu'ils sont aujourd'hui, de ces 60% des Français qui habitent sur des territoires loin des métropoles et qui ne participent pas forcément au PIB, comme on dit en raccourci dans les échanges économiques.
Quand vous jouez sous votre chapiteau, il y a un camion loge unique, alors pas tous les soirs sous chapiteau, on en parlera, mais certains soirs, un camion loge unique pour tous les artistes et c'est parfois un peu étroit. Extrait d'un reportage de France 2 avec deux acteurs de la troupe qui sont en train de se préparer.
On a déjà pu tester l'endroit en juillet dernier, Marsan-Bain. C'est plus dur que dans d'autres, mais ça va.
C'est jamais les salles sur lesquelles on va tomber. Et la grande diversité du public et de voyager, c'est vraiment fabuleux, fabuleux. Heureusement, on a le décor qui est toujours le même, qui ne bouge pas, donc on a les repères extrêmement fixes. Mais dans les rencontres, c'est extrêmement enrichissant.
Un extrait du Trésor d'Élise Lucet qui avait consacré toute une série de reportages au Tréteau de France l'an dernier. Est-ce que c'est pas un peu lassant malgré tout, Robert Renucci, d'être toujours dans un endroit aussi spartiate ? Une petite loge comme ça qui se déplace où il faut monter le chapiteau
Il faut la voir pour la trouver petite.
Oui, c'est un camion.
Quand nous pouvons être à 12 ou à 15 dedans, c'est qu'elle n'est pas si petite. Mais par ailleurs, il y a beaucoup d'équipements. Hein, voilà, il y a plusieurs camions. Mais aujourd'hui, la France n'est pas celle de Jean Danet quand il a créé les Tréteaux de France.
Donc vous ne sortez pas le chapiteau tous les soirs, c'est ça ?
Voilà.
Il y a des salles qui vous accueillent.
Aussi dans des salles qui parfois sont des salles modestes. Et la particularité de notre spectacle, c'est d'arriver avec un ensemble dont les lumières font partie et qui ne dépendent pas de l'équipement de la salle. C'est-à-dire qu'on joue le même spectacle pour tous, que l'on soit dans une halle, dans un gymnase au cas où, ou dans un très beau théâtre comme le TNP totalement équipé. L'objet qui est sur le plateau est le même pour tous, car les lumières sont accrochées à notre plateau.
Et comme le disait votre acteur, le décor ne change jamais, donc vous êtes toujours dans le même environnement, forcément.
Voilà, pour chaque spectacle, le décor change, mais une fois que le spectacle est créé, nous retrouvons le cadre de scène qui est notre plateau, avec ses lumières, comme je le disais, et qui fait que le spectacle reste identique partout où nous sommes.
C'est une fierté pour vous, Robert Renucci, de pouvoir amener la culture dans ces... Alors moi, je disais tout à l'heure dans mon introduction, les recoins de France qui sont parfois un peu déshérités en matière culturelle.
Alors justement, la question pour moi est de ne pas considérer que ceux qui nous reçoivent sont sans culture et que nous ne leur apportons pas la culture. Ils sont, à mon avis, pétris de culture. Pas forcément la même que nous et pas forcément la haute culture, comme certains l'appellent. Au fond, partir de la culture des gens, voilà le nouveau projet des Tréteaux de France. Arriver avec l'école des femmes, certes, une œuvre forte, écrite en 1662, mais qui fait résonner chez le public d'aujourd'hui la propre perception qu'ils en ont. C'est-à-dire quand on parle au public en lui disant « du côté de la barbe est la toute-puissance », lorsqu'on dit « votre sexe n'est là que pour la dépendance », dans une histoire de 2013, cela résonne d'une manière particulière. Et partons des gens qui ont une propre culture, qui ont une façon de connaître notre monde, de le vivre, sans considérer que nous leur apportons, voilà, la culture.
Vous dialoguez avec eux après ?
Beaucoup. Donc à chaque fois, il y a
des
débats.
Ils sont curieux de rencontrer des artistes
Très assidus.
Ouais.
Ils sont très assidus avant, après. Quand nous sommes sur place, c'est souvent pour plusieurs jours. Donc nous développons avec le territoire des actions, qu'on appelle souvent actions culturelles, mais qui vont bien au-delà. C'est-à-dire il y a ce qui se passe dans les collèges, dans les lycées, dans
on
les écoles,
tout à l'heure, extrait,
dans les associations.
Ça,
ouais. Mais au fond, il y a aussi des travaux d'écriture qui se font avec les gens, des travaux de réalisation, de lire ensemble les mêmes textes, de faire des débats, des cafés philosophiques, de donner la parole aux gens. Voilà le nouveau projet des Trésors de France.
Vous avez des spectateurs très fidèles. J'ai regardé quelques reportages sur Internet et à la télévision. Il y a des gens qui disent « mais moi je suis venu déjà de l'époque de Danet, j'ai connu tout Maréchal et maintenant je viens avec Renouchi ».
Oui, mais ça me fait très plaisir. Voilà, il faut quelques mois pour que cela se passe. Ça fait maintenant depuis juin 2011 que je suis directeur. Et toute l'équipe, toute la troupe et le public, nous appelons en fait une équipe de rémouleurs. Nous sommes là pour aiguiser la pensée des autres, aiguiser leur savoir-faire. Vous voyez la différence entre apporter des outils, ce qui n'est pas la même chose, et aiguiser les outils de ceux qui sont sur place. Voilà le projet.
Vous avez choisi de nous faire écouter du Verlaine.
Oui.
Interprété par Léo Ferré.
Oui, c'est le premier disque que j'ai eu dans mon enfance, ma petite Madeleine, à moi. Hein, je l'ai reçu tôt et la poésie est rentrée très tôt dans ma vie avec la musique de Léo Ferré. Et elle a compté énormément pour moi.
Âme, te souvient-il ?
Âme, te souvient-il au fond du paradis, de la gare d'Auteuil et des trains de jadis t'amenant chaque jour, venu de la chapelle, jadis déjà, combien pourtant je me rappelle. Après les premiers mots de bonjour et d'accueil, mon vieux bras dans le tien, nous quittions cet Auteuil et sous les arbres pleins d'une jante musique, notre entretien était souvent métaphysique.
Âme, te souvient-il de Léo Ferré, Robin Renucci, c'est à la fois pour Verlaine et pour Ferré donc. Hein.
Oui, la poésie en général, l'inconnu que cela provoque, voilà, à cette heure sur vos antennes, un instant d'une musique que je trouve absolument magnifique et puis quelques mots qui ont leur mystère.
Robin Renucci, directeur des Tréteaux de France, en votre compagnie tout au long de cette demi-heure. On se retrouve dans moins de deux minutes.
Bernard Thomasson.
Rencontre avec Robin Renucci, directeur des Tréteaux de France. La troupe joue l'école des femmes. Samedi et dimanche, ce sera sur Rennes. La semaine prochaine à Nice, puis Arcachon, Pessac, Villeneuve-sur-Lot, Miramas, Blagnac, etc. On trouve le calendrier complet sur votre site, tréteauxdefrance.com. Un extrait de la pièce de Molière.
Oh, quel mal trouves-tu dans un dessin honnête et tout plein de vertu ? Vous êtes un flippon ! Fort bien ! Ah, mort est sûr si tu ne prends pitié des peines que j'endure.
C'est un bonnet, un impudent.
Fort bien. Je ne suis pas un homme à vouloir rien pour rien. Je sais quand on me sert, on garde la mémoire. Cependant, par avance, un homme, voilà pour boire.
Extrait enregistré au Festival de Valréas au mois de juillet dernier, Robert Renucci, après Ruy Blas l'an dernier. Pourquoi l'école des femmes cette année ?
Ce sujet est tout à fait de notre actualité. Voilà, c'est l'histoire d'une jeune fille qui est séquestrée à l'âge de 4 ans, maintenue prisonnière dans une cave avec deux personnes sans aucune connaissance, totalement ignorantes, pour la maintenir dans l'ignorance par un homme qui veut en faire sa femme telle qu'il veut qu'elle soit, qui la manipule. Donc cette séquestration et puis ensuite l'histoire de cette emprise de cerveau, hein, un homme qui souhaite que cet enfant soit pense exactement comme il veut qu'il pense lui et en fera la femme qu'elle sera selon sa décision.
Ouais, il y a beaucoup de résonance. Alors, l'actualité, bon, on pense évidemment aux talibans par exemple, hein, mais pas seulement. Il y a beaucoup de sociétés où la femme est dans des situations
En France aussi, je crois.
en France aussi. Mmh. Et l'emprise mentale, je sais que c'est un thème qui vous est cher. Pourquoi vous êtes si attaché à...
Mais cela reste un grand sujet de nos sociétés. Ce sont les premiers, en effet, spectacles que j'ai voulu créer avec les Tréteaux de France et Christian Scaretti. D'abord, Ruy Blas, l'histoire d'un homme qui manipule le cerveau d'un jeune homme. Ensuite, Mademoiselle Julie d'Auguste Strindberg, où la jeune femme est sous l'emprise de la noblesse suédoise et sous l'emprise du valet qui va la pousser jusqu'au suicide. Et enfin, L'école des femmes, cet homme qui domine le cerveau de cet enfant. Parce que les questions de l'éducation aujourd'hui, de ce que l'on considère être la capacité de penser par soi-même de chacun, l'individuation, appelons cela comme cela, hein, qui est la capacité de chacun à penser par lui-même. Les philosophes nous l'ont appris, le philosophe Kant pense par toi-même, et puis l'histoire de la philosophie grecque, évidemment, de dominer les pulsions par la raison. C'est toute l'histoire de l'école, c'est toute l'histoire de l'éducation, c'est toute l'histoire de nos sociétés à venir. Si l'on passe cet endroit-ci et qu'on laisse aller la pulsion, eh bien nous nous retrouvons dans un monde qui est totalement libéré, certes, mais qui, au fond, est décadent.
Tiens, libéré, ça rappelle le libéralisme, forcément. C'est pour cela que vous avez voulu dialoguer, j'imagine, avec le philosophe Dany Robert Dufour. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes donc philosophe, professeur en sciences de l'éducation. Votre dernier livre s'appelle « Il était une fois le dernier homme » et le précédent « L'individu qui vient après le libéralisme ». Donc, voilà, l'individu passe après la notion de profit, libéralisme, etc.
Oui, c'est-à-dire que l'hypothèse que je fais, c'est que nous sommes maintenant, contrairement à ce qu'on peut croire, peut-être dans nos démocraties, sous une nouvelle forme de totalitarisme. Alors le XXe siècle a payé un lourd tribut au totalitarisme, le nazisme, les fascismes, le stalinisme, etc., qui glorifiait pour les uns la race, pour les autres la venue glorieuse du prolétariat. Maintenant, on glorifie le marché. Or, le marché est en train de détruire, qui est devenu une idée centrale, une idée totale, est en train d'envahir toute la société et de détruire radicalement toutes nos économies. Je dis toutes nos économies parce qu'il n'y a pas qu'une économie, il n'y a pas que l'économie marchande. Il y a l'économie dans laquelle nous sommes maintenant, en ce moment, nous parlons, nous échangeons, c'est une économie discursive. Il y a une économie psychique où nous apprenons, comme le disait si bien Robin Renucci à l'instant, à gérer nos passions et nos pulsions. Et toutes ces économies se trouvent détruites par le marché qui nous incite à vouloir toujours plus. Nous sommes donc dans l'idée d'un vouloir toujours plus, d'un avoir toujours plus. Alors pour ceux qui sont les maîtres de société, de cette société, c'est avoir toujours plus au sens de la puissance et notamment de la puissance financière. Et pour les autres, ceux qui subissent, ils pensent qu'ils peuvent avoir toujours plus de droits. Et donc on oublie que le travail, effectivement, qui est un travail d'éducation, où nous devons maîtriser nos passions et nos pulsions pour réussir à penser par nous-mêmes.
Robin Renucci, vous écoutez avec grande attention, Robin Renucci.
Oui, bien entendu. Je ne connais pas réellement Dany Robert Dufour, mais je lis, bien entendu, ses écrits. Je trouve qu'ils sont absolument passionnants. Et en effet, il nous parle d'une chose essentielle, c'est comment retrancher un peu de la jouissance dans laquelle nous sommes désormais tombés, où nous nous consumons, et pouvoir nous élever. Ce sont deux éléments antagonistes. Comment dire à nos enfants, qui sont les premiers prescripteurs d'achat, les premiers consommateurs, qu'il faut en même temps croître et s'élever alors qu'ils sont consumés, c'est-à-dire diminués au quotidien, hors du temps de l'école, par exemple, ce que Dany Robert Dufour appelle, comme les Grecs, la skolé ou l'osium, ou le temps, donc qui n'est pas celui du négocium, du commerce financier. Et il y a un autre commerce entre les individus, l'échange, le partage, comme Dany Robert Dufour vient de le dire, la rencontre de l'autre qui nous grandit, ne pas confondre valeur et prix, tout n'a pas un prix, la solidarité, la coopération, l'échange sont des valeurs. C'est bien entendu différent de celle du libéralisme et du grand marché qui est la compétition, les tueurs qu'il faut être pour diminuer à chaque fois l'autre. Donc, bien sûr, je partage totalement les idées de Dany Robert Dufour. J'ai envie de lui demander où il en est parce que les philosophes nous éclairent. Donc, qu'est-ce que c'est après l'individu qui vient qu'est-ce que sera l'individu que nous sommes aujourd'hui en train de créer, de faire naître
Écoutez, je pense que cet ultralibéralisme est en train de trouver ses limites, précisément parce qu'il détruit tant de choses au niveau des individus, tant de choses au niveau, peut-être même, on n'est pas sûr, dans la mesure où la Terre est exploitée comme elle est exploitée maintenant, que l'aventure humaine peut durer encore 3, 4, 5, 10 générations, on ne sait pas si nous serons là encore plus tard. Donc, je pense que le libéralisme est en train de montrer ses limites. La Terre réagit d'ailleurs par donc un certain nombre de phénomènes. On connaît le réchauffement climatique, l'épuisement des ressources naturelles, etc. Et donc il faut prendre au sérieux toutes ces altérations de nos grandes économies humaines, de l'économie du vivant, de l'économie psychique, de l'économie symbolique, de l'économie discursive. Et les prendre au sérieux, c'est essayer de penser déjà, d'ores et déjà à autre chose. Donc c'est penser à un autre monde. Moi j'appelle ça une nouvelle renaissance en fait. La Renaissance nous a apporté, nous a permis de sortir des ténèbres du Moyen-Âge. Je crois que nous devons aller vers une nouvelle Renaissance qui devrait nous montrer qu'il y a d'autres façons de vivre ensemble, que le profit n'est pas la loi absolue, que l'avoir toujours plus n'est pas le principe à mettre au centre, que la considération de l'autre est importante, que la considération de l'environnement dans lequel nous sommes est aussi décisive et que c'est ceci qui peut nous garantir un avenir. Donc voilà où j'en suis de ma réflexion. J'en suis à penser l'après de ce dont je vois maintenant les limites de plus en plus fortement.
Merci en tout cas, Denis Robert Dufour, d'avoir été quelques minutes
merci
sur
à vous.
France Info, philosophe, professeur ancien de l'éducation et sans doute les crises qu'on vit en ce moment permettent justement cette renaissance. On est en mutation plus qu'en crise, hein, je crois aujourd'hui, Robert Renucci.
Oui, nous sommes en mutation et je pense avec, je crois, Denis Robert Dufour, que c'est par la symbolicité que nous sortirons de la pulsionnalité. Donc en effet, inventer, créer, c'est résister, comme le disaient si bien les résistants dont Stéphane Hessel.
Et vous aidez les jeunes à aller sur ce terrain-là et aller vers cette voie-là. Voici l'extrait d'un enregistrement où il y a deux jeunes gens, deux jeunes collégiens que vous faites monter sur la scène et ils sont aidés par vos artistes à vous qui leur soufflent un peu les répliques.
Si vous saviez, madame, je vous parle à présent, six mois cachant ma flamme, je vous fuyais, je souffrais beaucoup, je ne m'occupe pas de ces hommes du tout, je vous aime.
Jamais on ne m'a dit ces choses-là. J'écoute. Ton âme, en me parlant, me bouleverse tout.
Voilà, Tristan et Héloïse, deux jeunes collégiens que vous avez rencontrés. Il y a de la graine d'acteur là-dedans.
Mais qu'est-ce qui se passe ? Alors avant que ce soit de la graine d'acteur, ce sont déjà des citoyens, des humains qui n'ont pas forcément les mots. Vous voyez ? Donc donner les mots à l'autre, c'est lui donner de la pensée.
Et les mettre en bouche.
Et c'est lui donner de la capacité de produire quelque chose de lui-même. Donc c'est une méthode toute simple. Les acteurs soufflent à l'oreille un texte à des jeunes gens qui n'ont pas la possibilité de dire ces mots-là. Mais cela passe dans leur corde vocale, dans leur idiome, dans leur individuation, dans leur singularité, et ils deviennent eux-mêmes porteurs et producteurs de langage. Donc je crois que l'avenir est là, redonner la parole aux gens par tous les moyens, c'est ce que j'appelle créer du rapport symbolique entre nous, qui nous réunit, plutôt que de considérer l'autre simplement comme un client permanent dans lequel nous le portons.
Voilà, ça fait partie des activités que vous menez dans votre périple à travers la France grâce au Tréteau de France. Où en est le village français
Il va bien, il vient d'être suivi par plus de 3 500 000 spectateurs.
Grande série
tout à fait régulièrement. Nous
préparons
la 6e saison. Et là encore, c'est un public qui s'élève, je crois, qui regarde la télévision de service public.
Ça fait partie
avec
de votre
choix.
Démarche, hein, justement.
Exactement.
C'est pas vous, forcément, mais
si,
vous inscrivez
ça l'est
dedans,
également, parce qu'il y a un grand engagement des acteurs. C'est un travail sur 7 ans, vous voyez, de notre temps. Et c'est un engagement que je voulais tenir avec France Télévisions, parce qu'au fond, c'est donner au public la capacité de créer, d'inventer l'avenir en regardant le passé.
Petit extrait du générique. Un village français.
Ça fait vibrer,
ouais, non ? Oui, ça fait vibrer, puis ça nous remet dans l'époque, on revoit les images qui viennent forcément aux yeux. En principe, ce feuilleton doit raconter la période de l'occupation. Vous aimeriez, je crois, que ça aille au-delà. Pourquoi ?
Parce que je crois que la France qui s'est reconstruite après le Conseil national de la Résistance de 1943 et ensuite 1945, l'esprit de Philadelphie, tout ce qui a pu créer les conditions sociales et la lutte justement de ce que est devenu notre société et les marchés dont nous parlons jusqu'à présent, eh bien c'est ce qui a construit notre modèle social français tant décrié. Et j'ai envie, non pas de regarder le passé, mais de regarder l'avenir avec ses valeurs de solidarité, de partage, d'échange et de construction de l'individu citoyen singulier.
Allez-vous être écouté, Robert Renucci ? Est-ce que
si... rien si on n'est pas écouté.
Va se prolonger. Non, mais vous avez un peu l'oreille, vous savez si ça va.
Alors moi j'aimerais beaucoup. Je crois que c'est tout à fait la suite de la France de Pétain dont il faut parler aujourd'hui. Comment ce modèle social dans lequel nous sommes peut être réformé tout en gardant en effet un cap qui est celui de l'échange, du partage, de la rencontre et de la solidarité.
On va se quitter avec votre deuxième choix musical, le pianiste Glenn Gould qui joue Bach. Robin Renucci, vous êtes bourguignon, je le disais tout à l'heure, par votre papa.
Oui.
Corse, et ça s'entend à votre nom, par votre maman.
Oui.
Comment se porte le festival que vous avez lancé en Corse, en Haute-Corse ?
Formidable. Ben là aussi, c'est donner la capacité à chacun qui est hors des grands lieux, notamment le conservatoire où je suis professeur également, ou dans des lieux institutionnels, d'avoir la chance, la possibilité de rencontrer cette parole prise, vous voyez, en mélangeant les amateurs, auxquels je crois beaucoup, les professionnels, les enseignants, tout ce corps enseignant qui a tant besoin de formation et qui est abandonné aujourd'hui dans le cadre de sa formation initiale et continue, lui donner les moyens à cet enseignant de pouvoir prendre la parole avec une autorité qui n'est pas confondue avec la discipline, c'est-à-dire être maître de sa parole et de pouvoir penser lui aussi par lui-même un peu plus.
Et vous arrivez à tout faire ? Télé, cinéma.
Oui, parce que tout cela, désormais, ça s'organise théâtre. En groupe. Il y a un complot commun qui s'est mis en place, vous voyez, avec des équipes de rémouleurs, là où ils sont, pour travailler sur l'aiguisement des outils des uns et des autres.
Les Tréteaux de France en tournée permanente, samedi et dimanche à Suresnes, près de Paris, puis à Nice la semaine prochaine. Ensuite, tout le sud-ouest dans des petites villes entre Bordeaux et Toulouse. Programme complet sur le site tréteauxdefrance.com. Merci Robert Renucci.
Merci à vous.
Directeur des Tréteaux de France. Demain, je serai en direct de la Foire du Livre de Brive pour le 13-14 et pour le 17-20 avec de nombreux invités, dont Jean-Paul et Raphaël Enthoven, Christian Signol, Alain Mabankou, Amélie Nothomb, Karine Gébel ou encore Jean-Paul Balaval. Donc rendez-vous demain à la Foire du Livre de Brive.